Marie-Christine Ponce, plusieurs choses qui ont été dites sur lesquelles on peut peut-être vous demander un éclairage. D'abord, celui de aussi similaire à une entreprise classique. À un moment, il faut un porteur de projet. Si c'est une petite entreprise, une petite activité, il y a quel dispositif imaginer. Mais aussi, si on est un projet genre juraterie, alors là, il y a 20 ans derrière, mais parfois on peut créer ou devoir agrandir les choses. Il faut comment on accompagne un porteur de projet pour faire face à tous les problèmes qui viennent de nous être expliqués. Dans l'économie classique, on admet le principe du risque. Et les acteurs, les entrepreneurs disent ben, « je prends le risque, mais en même temps, si ça marche, c'est bingo, je revends ma société au bout d'un moment ». Et il y a cette espèce de ferment, de l'appropriation et du gain qui est moins présent et par définition dans l'économie sociale et solidaire. Donc comment on fait pour concilier ça? On voit bien la carotte de l'économie capitaliste classique et donc tout ce qui va avec et les avantages, mais comment on fait pour atteindre cette même taille critique qui vient de nous être décrite à côté dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Je rappelle qu'après donc avoir été notamment président de l'Union régionale des SCOP, vous êtes aujourd'hui président de la commission de la région Midi-Pyrénées consacrée à l'économie sociale et solidaire.
Oui. Alors, la question, je vais juste faire un petit préalable au niveau, culturel ou politique, hein, sur la posture des élus vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire, telle que moi, évidemment, je la conçois. Et comment nous la concevons d'ailleurs au sein du RTES. L'ESS aujourd'hui, elle a fait ses preuves en termes économiques, au niveau non seulement bien sûr d'être une économie de niche avec de l'innovation économique, technologique ou sociale, non seulement d'être une économie de la précarité, de l'aide aux personnes les plus fragiles. Elle a fait sa preuve de tenir en termes d'emploi pendant les périodes d'économie de crise, et c'est souvent ce qui fait d'ailleurs l'intérêt des élus dans ces périodes-là. Historiquement, ça a été toujours le cas, mais elle a surtout fait sa preuve de sa capacité en matière économique de structurer le paysage économique territorial. Plus particulièrement, nous en Midi-Pyrénées, on est aussi grand que la Belgique. On a la zone d'agglomération toulousaine qui prend toute l'image, tous les financements, tous les capitaux. Et nous avons une zone rurale immense. Je dois dire que l'économie sociale et solidaire ne serait pas pour structurer nos territoires ruraux. Nous aurions quelques ennuis. C'est aussi... même si, suivant les types de structures, les histoires, leur taille, etc., des lieux de pratique vivante de l'intérêt collectif et des apprentissages autour de l'intérêt général. Et cela, je crois que nous devons le regarder comme étant les atouts du développement de l'économie sociale et solidaire et nous poser la question en tant qu'élus, de la parité entre guillemets de traitement ou de l'équité, pas de la parité, de l'équité de traitement entre l'économie conventionnelle, et j'en reviendrai à la question que vous posez, l'économie conventionnelle que nous subventionnons, que nous soutenons, que nous garantissons au niveau des prêts, selon les critères que chaque collectivité choisit et suivant les compétences des collectivités ou les champs d'action qu'elles ont souhaité développer. Alors, c'est vrai que nous avons tous aujourd'hui au niveau des élus et depuis longtemps l'enjeu autour de la situation de l'emploi, la situation de crise et qu'on se dit l'économie sociale et solidaire est un bon facteur, un des facteurs qui va permettre de travailler autour de ces sujets de l'emploi. Mais nous avons aussi un autre enjeu, en tout cas sur nos territoires, c'est la question des TPE-PME qui ont leurs dirigeants qui partent à la retraite, qui, nous, sur certaines zones, font qu'il n'y a pas de repreneurs dans les zones, notamment rurales. Il n'y a pas d'intérêt capitalistique à aller reprendre ces entreprises-là. Nous avons donc des petites entreprises, 3, 5, 10, jusqu'à des 50 salariés, qui se retrouvent dans des zones territoriales où pour remonter une entreprise à ce niveau-là, va falloir qu'il fasse fort et où personne n'a envie d'investir et où les salariés sont en attente aussi de dire, ben nous, on voudrait bien, mais des pauvres, plus des pauvres, plus des pauvres, ça ne fait pas forcément les capacités pour reprendre des entreprises. Et donc là, nous avons un enjeu en termes de collectivité, sous forme d'ailleurs d'économie sociale et solidaire ou sous forme de structure juridique de type classique. Et je pense que lorsque nous réfléchissons en tant qu'élus, nous devons aussi, en bon gestionnaire des collectivités, surtout dans les périodes actuelles, nous dire, lorsque nous investissons, nous prenons des risques. Oui, vous venez de le dire, on prend des risques. Mais désolé, on prend des risques dans l'économie conventionnelle. On en a tout à fait conscience. Autant lorsque l'on donne des subventions que lorsque l'on garantit des emprunts, qu'il y a des taux d'échec, que ces taux d'échec, ben, on va les calculer, on va se poser des questions. On n'est pas ravis quand ça arrive. Mais en tout cas, que ça fait partie de la réalité. Et je ne vois pas au nom de quoi on n'aurait pas la même démarche avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire tout à fait classique à ce niveau-là, en disant, eh bien oui, bien sûr que l'on va prendre des risques avec un certain nombre d'entreprises, mais regardons-les, mesurons-les et aidons-les à travailler leur projet de développement de la même manière qu'on le propose aux entreprises conventionnelles. Donc cette question-là de la posture de l'élu doit, de mon point de vue, chercher à mettre de l'équité au niveau des soutiens économiques, hein, je parle particulièrement au niveau de la région avec les choses que nous développons. Bien sûr, nous sommes totalement conscients qu'il y a un risque que l'on s'économise, c'est celui de la non-délocalisation, même si Madame Dumoustier, ce matin, a dit qu'un certain nombre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire pouvaient être délocalisées. À ma connaissance, elle reste relativement minoritaire et j'aimerais bien voir le rouage juridique pour qu'elle puisse le faire. Donc, il y a peu de délocalisation et il y a en tout cas quelque chose qui n'est pas fait, c'est le fait de revendre l'entreprise. Il y a des incapacités juridiques et il y a des incapacités à ce que des intérêts capitalistiques rentrent dans ces entreprises-là pour les vider du savoir-faire humain et des marques pour aller les remettre ailleurs. Donc ça, moi, ça veut dire que chaque fois que nous investissons un euro dans de l'économie sociale et solidaire, nous avons une forme de garantie à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir un échantillon ou deux de malversations, mais je ne vois pas au nom de quoi non plus. On demanderait à l'économie sociale et solidaire et à leurs acteurs d'être des plus parfait que tous les autres. C'est ce dont je rêve, évidemment. Hein? C'est ce que je vois pratiquer dans la grande majorité. Mais ne soyons pas plus sévères avec ce qui peut, à des moments donnés, nous déplaire au niveau idéologique ou au niveau économique, avec les secteurs de l'économie sociale et solidaire, alors qu'on pourra soutenir des entreprises conventionnelles ou des dirigeants qui ont fait les 400 coups. Voilà. Moi, voilà, il y a des histoires de posture. Alors, maintenant, si on parle, qu'est-ce qu'on fait, hein, ou qu'est-ce que l'on peut faire? Oui, je crois qu'il n'y a pas les mêmes niveaux d'échelle. Quand une structure de l'économie sociale veut se créer, elle a besoin d'accompagnement quand il y a 2-3 personnes qui veulent monter un petit projet, veulent faire un emploi, leur emploi autour de leur implantation territoriale sur leur savoir-faire avec une gouvernance collective, il n'y a pas les mêmes besoins d'accompagnement, il n'y a pas les mêmes besoins d'investissement, de démarrage, de fonds de roulement qu'une reprise d'entreprise de salariés qui a une unité de une trentaine de personnes avec un outil industriel à reprendre, à racheter à l'entrepreneur, etc. Donc là, il y a un modèle financier qu'il faut savoir créer. Il n'y a pas non plus les mêmes besoins de financement lorsque l'on veut créer une structure à partenariat multiple sur un territoire, sur un sujet innovant et qui la demande du temps de gestation pour arriver à l'accouchement du projet en termes d'ingénierie. Donc oui, nous devons être capables, soit avec les accompagnements qui sont déjà sur nos territoires existants, d'y faire rentrer l'économie sociale et solidaire en forçant la porte et en rentrant par la fenêtre et par le sous-sol de temps en temps, de manière à ce que, eh bien, les personnels de ces structures, les élus ou les animateurs de ces structures connaissent, n'aient pas peur, ne déconsidèrent pas ces structures-là. Et je suis d'accord avec vous que dès que nous avons une pépite, ce que j'appelle moi une pépite, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, une taille d'entreprise qui se développe, une exemplarité d'un projet innovant, etc. Notre rôle à nous aussi, c'est de soutenir la communication autour de ces projets-là, de manière à ce qu'il y ait un changement de mentalité de tous les secteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous, dans le cadre du SRDE, nous avons particulièrement travaillé cette question d'aménager soit des lignes complémentaires, notamment sur la reprise d'entreprise par les salariés. Ben, le conseil régional avait un fonds de capitalisation dans les entreprises classiques, avec un modèle tout à fait d'ailleurs capitalistique. On investit dans une entreprise parce qu'elle en a besoin au niveau de son capital. On fait du capital risque, on lui demande un retour d'investissement en dividende et puis voilà, tout roule. Et quand par exemple on parlait de participer au haut de bilan des structures coopératives, eh bien, politiquement, tout le monde était d'accord et trouvait cela bien, mais ensuite, il n'y avait pas l'outil. Et donc, nous avons utilisé la structure existante, qui est classique, qui s'appelle Midi-Pyrénées Croissance, et nous avons recapitalisé ce fonds. Nous avons ramené 4 millions d'euros en ayant 1,2 million amené par la région et 700 000 euros par la Caisse des dépôts, plus d'autres financements qui s'y sont joints, de manière à permettre que on passe de l'état de « c'est bien, ça serait bien qu'on reprenne des entreprises par les salariés » à un outil financier qui, dans notre région, couvrira une bonne partie des PME-TPE qui vont pouvoir reprendre. En même temps, ce fonds, au total, il a 14 millions d'investissements. Le conseil régional, il en détient 35% au total, et donc il a un pouvoir d'infléchir sur les dossiers.
Juste avec le même principe d'investissement et de demande de retour sur investissement, est-ce que vous avez recalculé le retour sur investissement?
On fait un système, bien sûr. Non, on a fait un système titre participatif. Mm-hmm. Les dividendes qui étaient demandés dans ce cadre au niveau de MP Création étaient relativement faibles par rapport à d'autres capital risques. Et donc là, les titres participatifs sont calculés pour que l'on ait des retours, entre guillemets, de paiement de ce prêt en haut de bilan pour que ça soit tout à fait acceptable par les structures. Et nous avons l'Union régionale des SCOP. Là, nous avons déjà trois entreprises qui ont candidaté et avec des structures de taille de entre 20 et 30 salariés. Voilà. Nous l'avons monté uniquement en début 2013. En même temps, pour donner un autre exemple, dans le conseil régional, toute une série d'accompagnateurs à l'économie sociale et solidaire préexistait à ce dernier mandat, tapaient à la porte sans arrêt de la rencontre des chambres consulaires, alors que le conseil régional animait une structure de concertation de l'économie classique, qui s'appelle Midi-Pyrénées Entreprendre chez nous, eh bien, nous avons décidé de faire rentrer les têtes de réseau des accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de ce lieu de concertation et de pilotage sur les territoires départementaux et régionaux. Et donc, nous avons signé leur rentrée. Certains étaient excessivement émus parce que ça faisait 20 ans qu'ils disaient « mais on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas travailler territorialement sur les développements financiers, etc. » Dernier point, puis après je m'arrêterai, je pourrais parler pendant des heures tellement je suis passionnée, mais dernier point qui peut être intéressant, c'est le questionnement autour de l'accompagnement des porteurs de projets individuels dans le cadre de la fraternité. Quelqu'un a parlé ce matin au nom du MES d'une économie de fraternité et donc du développement de la création d'entreprises avec l'accompagnement de porteurs de projets individuels et l'accompagnement de porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire au sens collectif. Ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre. Mais ce ne sont pas les mêmes choses. Nous avions bien en région du soutien, et que nous avons d'ailleurs renforcé, concernant l'accompagnement des porteurs de projets individuels, avec une aide de la région au niveau prime, enfin bon, etc. Ça, c'est très bien, c'est intéressant, ça fait de l'emploi, ça fait de la solidarité, ça fait des choses qui peuvent naître, mais ce ne sont pas majoritairement la naissance de projets collectifs. Ce qui permet la naissance de projets collectifs, c'est lorsque des acteurs ensemble décident de partager un avenir au niveau économique et de trouver une structuration de nature collective et une gouvernance de nature collective. Ce n'est pas le même objectif politique que le premier dont je vous parlais. Et donc nous avons développé à la région un accompagnement, une ingénierie concernant l'accompagnement de projets collectifs, parce que nous estimons qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas les mêmes critères d'accompagnement. Il y a un travail particulier dans le fait que des acteurs sont multiples autour de la table. Cette pratique d'ingénierie collective, ce sont les acteurs eux-mêmes qui décident de avec qui ils veulent travailler ou ne pas travailler. Le seul critère que nous avons donné, c'est le fait que les consultants dont ils ont besoin soient régionaux, pour permettre de les faire avancer, c'est-à-dire de dire, et en même temps, nous ne nous sommes pas contentés de la création d'entreprise, mais du passage d'un palier à un autre, c'est-à-dire que quand une structure a besoin de l'économie sociale et solidaire, a besoin de réfléchir sur sa stratégie de développement, sur quelle diversification elle va faire, sur comment elle va s'organiser juridiquement pour le faire, etc. Elle a besoin de consultants et elle a besoin d'être soutenue dans cette démarche-là financièrement. Donc on a agi sur cette ligne financière aux deux niveaux, de la création ex nihilo à des entreprises déjà constituées de l'économie sociale et solidaire qui veulent se diversifier.